plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Zouzou, bonsoir dames du soir, voici notre programme. Mythes et légendes avec l'Atlantide, à moins que le fond soit vraiment historique, mystère, mystère. Et, en deuxième partie, le paradis englouti de Mu, ou Lémurie. Et on commence avec un petit peu de musique, avec Simon. L'Atlantide, île mythique engloutie il y a bien longtemps, sous un déluge d'eau et de feu, reste encore et toujours désespérément introuvable. Si bien que les rares scientifiques qui osent aujourd'hui se pencher sur son cas s'interrogent sur les deux récits du philosophe grec Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui y font référence. Sont-ils à prendre au pied de la lettre ou doit-on les lire entre les lignes, quitte à prendre quelques libertés du côté des dates et des lieux? Je dirais surtout des dates. Dans ces dialogues, Critias et Timée, Platon dépeint longuement l'Atlantide comme une île merveilleuse qui fournissait tous les métaux durs ou malléables que l'on peut extraire des mines. Pendant de nombreuses générations, poursuit-il, les rois écoutèrent les lois et demeurèrent attachés aux principes divins auxquels ils étaient apparentés. Et lorsque l'élément divin vint à diminuer en eux, par l'effet du croisement avec de nombreux mortels, ils tombèrent dans l'indécence. Zeus, le monarque des dieux, décida par conséquent de les punir. Il y eut des tremblements de terre effroyables et des cataclysmes. En l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, l'île s'abîma en mer et disparut. Fin de citation. À l'en croire les hellénistes diplômés, cette histoire ne mérite aucun crédit, car comme toutes les allégories philosophiques et politiques, elle n'aurait d'autre objectif que de donner une leçon de civisme et de bonne conduite. Pour les autres, les plus perspicaces, nous nous trouvons face à un récit historique, duquel le chercheur doit exhumer le moindre indice capable de le mettre sur la voie de la réalité archéologique, ainsi que le fit jadis l'Allemand Heinrich Schliemann dans le cas de la ville de Troie, que l'on croyait aussi mythique, et qu'on a découvert. Mais c'est là que les choses se compliquent, car il y a une infinité de lieux pour un même site. D'ailleurs, si vous tapez le mot « Atlantide » sur un moteur de recherche Internet, cela provoque un véritable déluge de réponses, 350 000 en moyenne. Comment dès lors faire la part des choses? Un indice. Dans son Timée, Platon déclare qu'en ce temps-là, on pouvait traverser la mer et il y avait une île au-delà de ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Hercule. C'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Base de départ, l'Atlantide devait donc se situer quelque part dans l'Atlantique. De nombreuses hypothèses ont vu le jour, de la plus crédible à la plus farfelue, comme d'habitude. Parmi elles se trouve la plus évidente, la plus logique, celle d'une île gigantesque située au beau milieu de cet océan. Sauf que les plaques tectoniques eurasiennes et de l'Amérique du Nord s'emboîtent parfaitement. C'est la dérive des continents. Donc, pas ou peu de place pour un quelconque bout de terre. Et puis, les cartographes modernes des fonds marins ne trouvent aucune trace d'un continent perdu. L'Atlantique existe dans sa forme actuelle depuis plus d'un million d'années, ce qui, à l'ère géologique, est assez récent. En 2002, le préhistorien français Jacques Collina Girard défendait une théorie plutôt séduisante. L'île mythique serait celle de Cap Spartel au débouché de Gibraltar, bien qu'en accord avec les dires du philosophe grec, elle n'a pas tardé à subir le feu de la critique, notamment parce qu'elle gomme l'idée d'une civilisation raffinée, en la remplaçant par de modestes populations préhistoriques en proie à divers cataclysmes géologiques sur une longue période. Le continent antarctique a aussi été proposé un temps, sans plus de succès. Des carottes glaciaires prélevées in situ attestent d'une glaciation intégrale depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Last but not least, l'auteur Sylvain Tristan a pour sa part cru bon de placer notre Graal archéologique beaucoup plus au nord. Dans son ouvrage « L'Atlantide, premier empire européen », il explique, je cite, « Le recoupement des récits mythique grecque, fait de l'Europe du Nord une excellente candidate pour avoir accueilli une île importante de l'ère Atlante. Or, justement, il y a bien des terres qui ont été immergées dans la mer du Nord, tout autour desquelles ont été retrouvées des mégalithes. Il y a plus de 8000 ans, en effet, une grande étendue de terre reliait la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Appelé Doggerland, ce vaste territoire aujourd'hui immergé était un paradis pour les chasseurs-cueilleurs, précise le géophysicien britannique Vincent Gaffney. Toucherions-nous au but? Bluette Dio, historienne, dit ceci. À mon sens, cette Atlantide du Nord, qu'elle soit ou non celle de Platon, pourrait bien être l'explication rationnelle de certaines légendes, en particulier celle de la cité d'Is, la célèbre ville engloutie, ou encore celle du fameux mythe celte des quatre îles au nord du monde. Pour autant qu'elle place la patrie des puissants Atlantes sous de hautes latitudes, l'hypothèse mérite néanmoins d'être creusée. Et nous sommes sur la piste, bien sûr, d'un ancien cataclysme. Depuis près de 2 siècles, l'Amérique du Nord et du Sud, la Perse, Israël, le Sinaï, la Tunisie, la Sardaigne, le nord de l'Espagne, l'Irlande, le Liban, le Groenland, l'Asie du Sud-Est, l'Éthiopie, la Thaïlande, la mer des Sargasses, le Sahara, les Açores, et même l'île de Pâques se sont portés candidats au titre suprême. Sans grand succès. En 1978, fort d'une équipe aguerrie et d'un matériel de pointe pour explorer les fonds marins, en scaphandre autonome, bathyscaphe, le célèbre commandant Cousteau naviguait jusqu'en Grèce à Santorin, qu'on appelle aussi Tyra, au lieu de la civilisation minoenne, civilisation qui a vécu entre 2700 et 1200 avant Jésus-Christ. Une île depuis longtemps suspectée par les anciens d'avoir été l'Atlantide. La ville d'Acrotirie en était le centre. Il y a 3500 ans environ, raconte Françoise Marchand, maître de conférence à l'université de Figeac, en France, dans notre région, Poséidon, l'ébranleur de la terre, rappela aux Minoens et à la Grèce entière que rien, ni la grandeur d'un royaume, ni ses richesses ne résistent aux colères des dieux. Acrotirie, engloutie sous plusieurs mètres de cendres, révèle un monde qui avait bâti sa richesse sur le commerce maritime. Chaque maison témoigne d'une vie aisée. Grandes fenêtres, ruelles ensoleillées, un grand nombre de jarres, tout nous montre que les riches armateurs de Santorin menaient une vie de luxe et de fête et que les artistes y pratiquaient un art de la fresque extrêmement raffiné. Les Minoens, grands voyageurs et commerçants, dominaient tout le bassin méditerranéen et en une nuit, la colère de Poséidon remit tout en question. Ce qui est presque exact scientifiquement parlant. Des études de datation par la technique du radiocarbone, comptage du carbone 14 résiduel, réalisées à la fin des années 70, ont bien montré que la Santorin actuelle ne constituait que les restes d'une île beaucoup plus massive qui avait subi vers 1600-1500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la période de l'âge du bronze, une éruption volcanique d'intensité majeure dont le déroulement a été retracé. Après des secousses répétitives, commence la phase la plus intense avec une pluie de pierres ponces, volume estimé à 50 km cubes, suivie par une avalanche de rochers incandescents projetés jusqu'à 1000 km au sud. Explosion du volcan qui éjecte violemment gaz et matériaux dans la stratosphère à la vitesse d'environ 2000 km par mètre. Obscurcissant, bien sûr, durablement les cieux. Le bassin magmatique qui se trouvait sous l'île est à présent vide, provoquant son effondrement quasi total. S'ensuivent d'autres explosions qui soulèvent des vagues de plus de 20 mètres de hauteur, lesquelles s'abattent sur les côtes crétoises et égyptiennes. Un véritable déluge. pour les scientifiques qui se sont rigoureusement penchés sur cet épisode dramatique, les grondements provoqués par la catastrophe auraient porté de l'Afrique à la Scandinavie. De quoi marquer durablement les esprits et inspirer une belle histoire aux scribes de l'époque, non ? En revanche, Platon ne souligne-t-il pas que l'Atlantide se trouvait, nous l'avons plus haut, au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'Atlantique ? Ce qui n'est évidemment pas le cas de Santorin. Énième cul-de-sac ? Pas fatalement. Dans une vaste étude menée en 2010, l'historien irlandais Tony O'Connell parvient à une conclusion assez étonnante. Il nous dit ceci. Il est clair que le terme « colonne d'Hercule » était sans aucun doute jadis employé pour qualifier une grande variété de sites importants. Il s'avère également plausible qu'il soit devenu, à un moment donné, une sorte d'expression destinée à marquer certaines limites géographiques. Là, c'est intéressant. Donc O'Connell a ainsi répertorié de nombreuses zones géographiques qui furent susceptibles de porter ce nom dans les temps anciens. Et il répertorie la région de l'île de Malte, le détroit du Bosphore, de Sicile à Messine, d'Ormuz, le golfe de Gabès, voire, ce qui est bien commode pour l'hypothèse, Santorin, le delta du Nil. Le vulcanologue et océanographe américain Floyd McCoy, qui a récemment examiné sur place la caldeira de l'île grecque, n'a rien contre ce point de vue. Aidé par une équipe pluridisciplinaire de scientifiques allemands, McCoy a pu analyser les phénomènes sismiques en cause et concevoir des animations en 3D pour reconstituer fidèlement les mouvements tectoniques impliqués. En ressort une analyse aussi fine que précise qui revoit à la hausse un événement qui s'impose comme la plus grande éruption volcanique que l'être humain ait jamais connue, équivalent à 40 bombes atomiques de moyenne puissance, accompagnée par un gigantesque tsunami qui dévasta les zones côtières de la Crète, pourtant distantes de 70 kilomètres. Toucherions-nous enfin au but ? Auteur de l'ouvrage « Atlantide, la solution oubliée », l'ancien enquêteur de police Jacques Hébert est particulièrement sceptique. Il dit ceci. Scientifiquement avérée, cette éruption du Santorin, 5 à 10 fois plus puissante que celle du Pinatubo, s'avère bien plus pratique. Elle clôt le débat Atlantide et fournit une explication clé en main aux mythologistes. Voilà le mystère du déluge éclairé. Que la configuration géographique ne corresponde plus du tout au récit précis de Platon, que l'océan au-delà d'un détroit s'évanouisse dans une mer Égée, connue de ses locuteurs, mais qui ne cite jamais, aucun de ces contre-arguments ne trouble l'étonnant de cette absurdité. Bon, c'est lui qui le dit. Curieux discours de la part d'un individu qui développe une hypothèse visiblement tout aussi hasardeuse. L'île de Socotra située au large du Yémen. Maintenant, imaginons un instant que le récit de Platon soit pure invention, une simple leçon de morale. Ne pourrait-il pas avoir puisé son inspiration dans des civilisations disparues, comme celle des Minoens ? La célèbre auteure et globe trotteuse française Jess Bontemps rappelle à juste titre que l'éruption volcanique de Santorin fut, selon les scientifiques, d'une telle ampleur qu'elle a pu fortement marquer les esprits et les mémoires de génération en génération et ainsi donner naissance à un mythe comme celui de l'Atlantide. Leur culture raffinée, leur maîtrise de la navigation, de l'architecture, des arts, de la tauromachie a pu inspirer les récits. Quoi qu'il en soit, que les Minoens aient été ou non des Atlantes, une chose est certaine. Ce peuple appartenait à une civilisation ingénieuse et florissante qui a dominé pendant un temps la Méditerranée. Ce qui n'est déjà pas si mal, non, comme hypothèse de travail. Voilà, nous en resterons là. Bien sûr, il nous faudrait bien plus de temps pour fouiller le sujet de l'Atlantide. D'ailleurs, on pourrait dire les Atlantides. On fait une pause musicale et je vais vous parler d'une autre espèce d'Atlantide, le fameux continent de Mu. À tout à l'heure.
Something before you leave.
Vous êtes bien sur CFM Radio 90.2 et vous écoutez l'émission Au plus profond des ondes. Aujourd'hui, je vous parle de mythes et de légendes autour de l'Atlantide et du continent de Mu. Alors ce dernier est un petit peu moins connu. Le paradis perdu de Mu. Je me suis dirigé pour cet entretien sur un texte de Dorothée Koechlin de Bisemont. Voilà, donc ce que je vais dire n'engage bien sûr que l'auteur. Le Mu, encore appelé Lémurie par la plupart des spécialistes, aurait été un très grand continent au milieu du Pacifique, incluant aussi l'océan Indien. Ce continent aurait disparu à l'époque des premiers temps de l'Atlantide. À vrai dire, l'hypothèse de l'empire englouti arrangerait beaucoup de monde, elle permettrait de résoudre un très grand nombre d'énigmes archéologiques, océanographiques et zoologiques, du genre des mystères architecturaux. Par exemple, on continue à se poser la question. Qui a bien pu construire ces incroyables monuments que l'on retrouve partout sur toutes les petites îles éparpillées de l'océan Pacifique? Il ne s'agit pas de cahutes primitives façon Cro-Magnon, mais de vrais monuments très élaborés, dont l'un des plus remarquables est l'immense arche de pierre située sur l'atoll de Tonga Tabu, dans l'archipel de Tonga. Cette arche se compose de deux énormes piliers d'au moins 20 tonnes chacun, supportant une non moins énorme pierre transversale. Alors qu'il n'y a pas de pierre sur l'atoll, mais uniquement des coraux. Première bizarrerie. De même, à Rarotonga, dans l'archipel des îles Cook, on a découvert un segment de route pavée de très belles pierres plates. Question, venue d'où? Même trouvaille sur l'île de Mangaia, toujours dans les îles Cook, alors que là aussi, il n'y a pas la moindre carrière de pierre sur l'île. L'énigme s'épaissit. Sur les îles Gilbert et Marshall, on voit d'immenses pyramides de pierre, alors que ces îles ne sont constituées que de coraux. Dans les îles Carolines, existent également des ruines impressionnantes, dont à Penipé, une espèce de temple de 100 mètres de long sur 20 de large, dont les murs atteignaient encore jusqu'à 10 mètres de haut sur une épaisseur de 1,50 m lorsque les explorateurs européens les ont découverts en 1874. Bizarre. Dans l'archipel des Mariannes, ces derniers ont retrouvé de hautes colonnes de pierre massives. Dans certaines îles, elles étaient encore debout, mais dans d'autres, elles avaient été jetées à terre comme abattues par quelques cataclysmes. Aux Hawaï, à Kukii, existent des terrasses avec des sols pavés de ces énormes pierres dites cyclopéennes, parce que ceux qui les ont taillées devaient avoir la force terrifiante que la mythologie grecque antique prêtait aux géants appelés cyclopes. Bon, là c'est de la légende bien sûr. Mais les constructions sont impressionnantes. Il y a aussi encore d'impressionnantes ruines dans bien d'autres archipels, par exemple aux Marquises, ou encore aux Marshall, îles de Cusay et de Lélé. Des murs de pierre toujours cyclopéens de 6 à 7 mètres d'épaisseur qui forment des enclos de 150 mètres de long, avec des caves, des grottes artificielles, des passages secrets. Enfin, sur l'île de Kinchil, on peut même voir des pyramides. Je ne cite que quelques-unes des découvertes faites dans le Pacifique au cours des trois derniers siècles, mais il y en a mille autres dont le lecteur français n'a jamais entendu parler. Les voyageurs occidentaux ont bien vite compris que les pauvres individus locaux, en général peu nombreux et tout à fait dépourvus sur le plan de l'outillage technologique, n'auraient jamais pu édifier ces puissantes constructions. Alors qu'est-ce qu'il répondait? Eh bien, il disait, ce sont nos ancêtres qui ont bâti ces murs. Mais quels ancêtres? Et quand? Et comment? Et avec quels outils? Et pourquoi? Et si ces îles n'étaient que les restes visibles d'un continent plus vaste? On y vient. On tiendrait là une explication logique. Mon ami Francis Mazière, dit l'auteur de ce texte, grand explorateur qui avait passé plusieurs mois sur l'île de Pâques, me disait que plus il examinait les fameuses statues, appelées les Moai par les indigènes, plus il se posait de questions, et moins il avait de réponses. L'île de Pâques, qu'on appelle aussi Rapa Nui en polynésien, qui fut découverte par le navigateur hollandais Jacob Roggeveen, le lundi de Pâques 1722, a certainement été ravagée par des guerres tribales meurtrières. Celle-ci serait en partie responsable de la destruction de beaucoup de Moai, qu'on retrouve aujourd'hui renversés sur les grandes plateformes, qu'on appelle des AU, sur lesquelles ils avaient été dressés. Ces statues atteignent souvent les 10 mètres de haut, ce qui n'est pas rien. Les indigènes survivants à l'arrivée des Européens n'étaient pas capables non plus de déchiffrer l'écriture idéographique sacrée sur les antiques tablettes de bois qu'ils appelaient Rongo Rongo. Il y a aussi des mystères zoologiques. Il y a aussi donc des mystères zoologiques. Pourquoi ? Parce qu'on trouve telle ou telle espèce animale bien précise dans des zones géographiquement séparées par la mer et distantes de milliers de kilomètres les unes des autres. C'est le cas par exemple de ces petits singes à grands yeux appelés lémuriens que l'on trouve à la fois à Madagascar, en Australie et à Ceylan. Ils n'ont tout de même pas été colonisés, ces pays à la nage et en traversant tout l'océan Indien. Donc cette hypothèse d'un grand continent disparu a commencé à s'imposer peu à peu à partir du 19e siècle, non seulement chez certains scientifiques comme Haeckel et Sclater, mais également chez certains très grands voyants qui font autorité, tel Edgar Cayce. Ce qui est étonnant, c'est la convergence de ce que disent les uns et les autres, comme nous allons le voir. Edgar Cayce décrit le pays de Mu, le fameux continent englouti. L'auteur de ce texte dit ceci. « Lorsque j'ai découvert ces lectures ou les voyances de Cayce, j'étais très étonné. Comme celui-ci n'était ni zoologiste, ni préhistorien, ni explorateur, il n'avait jamais, dans son état conscient, entendu parler du Mu, ce fameux continent. En revanche, endormi sous hypnose, il avait accès à l'akasha, c'est-à-dire à la mémoire de l'univers, où il pouvait lire les informations encore très largement ignorées, tant de lui-même que de ses contemporains. Il décrit donc le Mu, appelé aussi Lémurie, et il ne fait aucune différence entre les deux mots. Il est décrit comme un immense continent qui aurait existé bien avant l'Atlantide et aurait disparu au début de l'épanouissement de celle-ci. Donc là, c'est même bien plus ancien. Le Mu aurait suivi une évolution semblable à celle du continent Atlante. Une brillantissime civilisation, puis une décomposition sociale et morale, et enfin un cataclysme avec de très violentes éruptions volcaniques. Au final, le continent aurait sombré, et ce qui en émerge aujourd'hui, ce sont les anciens sommets encore visibles sous la forme de ces innombrables îles dont j'ai parlé plus haut. Toujours d'après Edgar Cayce, le continent de Mu aurait existé plusieurs centaines de milliers d'années avant notre ère. Là, les chiffres sont vertigineux. On parle de 700 000 à 600 000 ans et aurait disparu au fond du Pacifique vers 200 000 avant Jésus-Christ. Alors que pour l'Atlantide, on remonte à 12 000 ans, à en croire le texte de Platon. Bien entendu, ni la bonne Gertrude Cayce, c'est-à-dire l'épouse d'Edgar, ni son voyant de Marie n'avaient jamais entendu parler de Mu. Elle lui posait donc des questions en toute innocence, alors qu'il était endormi, c'est-à-dire dans un état modifié, un état second, impossible à définir scientifiquement, où il prenait l'apparence du sommeil. Cayce a mentionné la Lémurie une vingtaine de fois, ce qui fait assez peu si l'on compare aux innombrables lectures ou révélations où il part de l'Atlantide. Voici quelques extraits. N'oublions pas que Edgar Cayce est en état modifié. Il dit ceci. Auparavant, nous trouvons cette entité, qu'il nomme le consultant numéro 816, incarné dans l'un des pays où se réfugièrent les gens de Mu et qui sont maintenant l'Arizona et l'Utah. Eh bien oui, les terribles éruptions volcaniques qui annoncèrent la catastrophe imminente firent comprendre aux Muviens qu'il était urgent de déguerpir. Edgar Cayce poursuit. Auparavant, il veut dire dans la vie antérieure de sa consultante américaine, nous trouvons cette entité dans le pays maintenant connu comme l'Amérique, à une époque de bouleversements géologiques qui avait provoqué la submersion du continent Mu, c'est-à-dire de la Lémurie, et la migration de ses peuples. Et l'entité en question était une princesse du pays qui enseignait la loi de 1. Pour être bien comprise, cette lecture de Cayce, cette révélation en état modifié, appelle quelques explications. Son principe, c'est que nous avons tous derrière nous un long passé riche de vie antérieure, dans des civilisations très variées, l'Atlantide, la Chine, le Japon, l'Afrique et le continent de Mu. La loi de 1 aurait été la religion du Dieu unique enseignée en Lémurie, puis reprise en Atlantide, toujours d'après Cayce, évidemment. Plus tard en Égypte, elle serait la référence de base de toutes les religions actuelles. Voici encore un autre extrait d'une révélation, d'une lecture donnée pour un autre consultant. Cayce dit ceci. L'entité vivait dans ce pays que Ton appelle aujourd'hui le Mu, c'est-à-dire le continent disparu du Pacifique, le paisible. C'était l'époque où beaucoup de ceux qui étaient parvenus au pouvoir furent bannis et se préparaient à se réfugier ailleurs pour survivre, car ils savaient que leur continent allait bientôt se désintégrer. Et l'entité fut parmi ceux qui voyagèrent depuis le Mu jusqu'à ce qui est maintenant l'Oregon. Fin de citation. Et comment ce monsieur 630, il appelle comme ça, fit-il le voyage? Probablement dans un engin tellement moderne qu'on en a perdu le secret technologique. Autre révélation. Dans la lecture 5750, Edgar Cayce parle à son consultant des cataclysmes qui ravagèrent l'Atlantide, puis il ajoute que ce n'était pas nouveau. Car il y avait eu aussi des cataclysmes avant, dans les pays de Mu, c'est-à-dire la Lémurie. Les premiers temples bâtis par Iltar, c'est-à-dire le consultant de Cayce, monsieur 5750, au Yucatan, furent détruits par des bouleversements géologiques. Ce que l'on est en train de retrouver actuellement, dont une partie en ruine depuis bien des siècles, est l'œuvre combinée des gens venus du Mu, d'Oz et de l'Atlantide. Les Incas étaient eux-mêmes les successeurs des peuples d'Oz ou Og au Pérou et des peuples du Mu, d'après sa révélation, bien sûr. Il semble, d'après Cayce, que toute la façade ouest des deux Amériques ait été peuplée par les réfugiés du Mu. Cela pourrait peut-être donner une explication aux pistes des Nazcas, gigantesques dessins sur le sable qui ne peuvent être lus que d'avion, ainsi qu'à bien d'autres mystères du continent américain, comme par exemple ces énormes boules de pierre que l'on a récemment retrouvées au milieu de jungles d'Amérique centrale. Le monde occidental avait complètement perdu le souvenir de ce continent disparu. Il faut dire que les Européens ont eu la mémoire courte. Ils avaient même oublié l'existence des Amériques, sauf les Vikings. Ceux-ci, en effet, fréquentaient la côte ouest depuis toujours, semble-t-il. On y a retrouvé des traces d'établissements vikings datant au moins du Xe siècle, comme le raconte la saga d'Éric le Rouge, précurseur méconnu de Christophe Colomb. Cependant, ce dernier lui-même n'était pas n'importe qui. C'était un génois extrêmement cultivé, ayant certainement eu accès à des cartes anciennes évoquant un continent au-delà de l'Atlantique. C'est seulement à partir du XIXe siècle que certains grands esprits novateurs commencent à parler du continent de Mu. Ceux-ci sont soit des voyants comme Edgar Cayce, que nous venons de citer, mais aussi Rudolf Steiner ou Elena Blavatsky, soit des historiens comme l'abbé Brasseur de Bourbourg, soit des voyageurs comme le colonel Churchward, soit des scientifiques comme Ernst Haeckel ou le zoologiste Philippe Sclater, dont j'ai parlé plus haut. Mais le plus connu de tous est certainement le colonel James Churchward. Celui-ci raconte qu'il avait noué des liens d'amitié avec un rishi du sud de l'Inde, c'est-à-dire le prêtre gardien du temple. Ce vieil homme dit à Churchward qu'il conservait des tablettes ayant trait à une grande civilisation disparue et qu'il souhaitait que Churchward les traduise et les fasse connaître avant qu'elles ne soient détruites par des ignorants qui viendraient après lui, le vieux prêtre étant le dernier à savoir les traduire. C'est ce que raconte Churchward dans plusieurs ouvrages, dont le plus connu est « Le continent perdu du Mu » paru en 1926, puis aux éditions J'ai lu dans la collection « L'aventure mystérieuse ». L'ennui, c'est que Churchward n'a jamais montré ses documents à personne, ce qui explique que malgré son très grand succès, il ait été violemment contesté. Cependant, un Français, l'abbé Brasseur de Bourbourg, bien avant Churchward, avait dès 1866 été le premier à évoquer le Mu oublié. Il n'atteignit cependant jamais la renommée internationale du voyageur anglais. Brasseur de Bourbourg affirmait qu'en étudiant le célèbre livre maya appelé Codex Trocortesianus ou Codex de Madrid, il y avait retrouvé la mention du Mu. Pour lui, les Mayas, aussi bien que les Égyptiens, seraient issus des peuples de ce continent englouti. Il affirme que les innombrables archipels qui émaillent actuellement le Pacifique sont les restes du Mu, thèse que reprendra Churchward. Celle-ci paraît d'ailleurs aujourd'hui tout à fait acceptable à beaucoup d'océanographes modernes. Cependant, les traductions du Codex de Madrid par Brasseur de Bourbourg sont bien loin de faire l'unanimité. Brasseur de Bourbourg, puis James Churchward, considère que le Mu fut à ses débuts une sorte de paradis. Tous les délires sont possibles. Il n'y a pas de frontière bien nette ici entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas encore. Mais, dans l'état actuel des textes, on ne peut rien rejeter absolument. Un autre personnage avait étudié le Codex de Madrid, l'archéologue Augustus Le Plongeon, américain et spécialiste des civilisations précolombiennes. Lui aussi était convaincu de l'existence d'un grand continent disparu au milieu de l'océan Pacifique et contribua à réhabiliter sa mémoire. Enfin, n'oublions pas de mentionner deux très grands voyants qui ont marqué leur époque et dont l'influence fut immense. Ce sont Rudolf Steiner, créateur du mouvement anthroposophe, et Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique. Steiner, lui, situe plutôt le continent lémurien au sud de l'Asie, approximativement entre Ceylan et Madagascar. Autrement dit, il le limite à l'océan Indien. Au contraire, Madame Blavatsky l'étend à l'océan Pacifique sud actuel, en estimant que les Moai de l'île de Pâques furent érigés par les descendants du monde très civilisé de la Lémurie. Elle appelait les Lémuriens la troisième race de l'espèce humaine qu'elle décrivait comme une race de géants. Elena Blavatsky affirme que le continent du Mu fut détruit par un gigantesque cataclysme et que ses habitants s'enfuirent vers l'Atlantide où ils constituèrent une quatrième race humaine, la cinquième étant la nôtre. Évidemment, ces histoires de race datent quelque peu, vu l'abus qu'il en sera fait au XXe siècle. On n'ose plus être aussi affirmatif aujourd'hui que l'était la chère Blavatsky encore dans l'innocence de son XIXe siècle. Ce que l'on peut retenir d'intéressant, finalement, c'est la convergence de toutes ces personnalités. Quel que soit leur parcours, scientifique ou non, tous se retrouvent d'accord sur l'existence du continent perdu, le continent Mu. Il y a bien eu, il y a très longtemps, au milieu de l'océan Pacifique, un grand continent qui a été englouti. Aucun océanographe, aucun préhistorien, aucun archéologue actuel n'oserait affirmer le contraire, car les découvertes archéologiques ne cessent actuellement de s'accumuler. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, par 22 mètres de fond, on a trouvé, sous la mer à Yonaguni, d'impressionnants monuments engloutis. dans l'archipel des Ryukyu, au sud du Japon, a été découverte en 1985 une espèce de pyramide immergée de 200 mètres de long par 25 mètres de haut, ce qui n'est pas rien. Cette structure très élaborée comporte de très grandes terrasses, de beaux escaliers aux marches proprement taillées et de grands murs bien droits et bien lisses. Le professeur de géologie Masaaki Kimura, qui l'a étudié depuis 1996, est sûr qu'il ne s'agit pas d'une structure naturelle. Tout autour, il y a d'autres murs, d'autres édifices, certains formant des rues. Quand on voit les photos, on comprend bien que ce n'est pas naturel, mais parfaitement fait de la main de l'homme. Les découvertes d'ailleurs continuent, en particulier autour des îles Sichuan, au point de penser que l'on se trouve probablement en présence d'une très grande ville. On a également découvert sur les murs des sortes de hiéroglyphes. Alors, il est évident que ce ne sont pas les poissons qui les ont écrits, hein. Ces hiéroglyphes ne sont toujours pas déchiffrés à l'heure actuelle, et le mystère s'épaissit. C'est là que l'on aurait bien besoin d'une explication globale qui puisse réintégrer les constructions de Yonaguni dans une logique historique. Ces monuments ne peuvent être autre chose que les vestiges d'une grande et puissante civilisation disparue. Malheureusement, les imbéciles prolifèrent même chez les scientifiques, et le pauvre professeur Masaaki Kimura a été attaqué de partout par des sceptiques qui prétendent encore, contre toute évidence, que ces structures sont d'origine naturelle. C'est un peu le même débat que celui qui a agité le monde de l'océanographie lors de la découverte du mur de Bimini, dans l'Atlantique. Dans ce dernier cas, le débat est clos, car d'autres découvertes ont été faites depuis sur zone, montrant bien que l'on avait affaire à des vestiges faits de la main de l'homme, et non pas des structures naturelles. Il est plus que probable que les découvertes sous-marines dans l'océan Pacifique et le sud du Japon vont se multiplier. Nous sommes peut-être à une époque où tout ce qui est caché doit être révélé. Enfin, peut-être un jour, on saura tout. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. Et demeurez curieux. Bye bye. Thank you.
Thank you.